Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, là, il y a du bruit. Là.
Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Béatrice Grandet au micro pour vous ce soir. Aujourd'hui, cap sur la Belgique, entre Bruxelles, la Wallonie et ses campagnes, pour une balade sonore où il sera question de patates, mais aussi de résistance, d'engagement citoyen et de lutte collective. Ce soir, nous vous proposons d'écouter Des patates et des luttes, un documentaire radiophonique réalisé en 2020 par Hélène Hoquet, Pierrette Pastels et Corinne Ricuor. Plantées, récoltées, vendues et parfois même arrachées lors d'actions militantes, la patate devient ici un objet politique à part entière. Au fil des rencontres et des paysages sonores, ce documentaire dessine une mosaïque de voix et d'expériences où se mêlent désobéissance civile, souveraineté alimentaire et convivialité. Produit par Alternative Culture avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Des patates et des luttes est une invitation à tendre l'oreille vers celles et ceux qui cultivent la terre autant que les alternatives. Restez avec nous après l'écoute de ce podcast. Nous retrouverons chacune des trois réalisatrices pour un entretien autour de la genèse du projet, de leur travail de terrain et de leurs expériences de création sonore. Bonne écoute sur Radio Campus Paris.
Adriana, Amandine, Blanche, Chérie. Corolle.
Il n'y en a pas qui porte mon prénom.
Daisy. Élodie.
Mais je m'appelle Josine. Josine Marchal, je suis née dans le Brabant-Wallon et j'ai épousé Gilbert Cardon, donc, qui est lui un Picard. Voilà. Et donc...
Si je pense pomme de terre, la première chose que je vois, là, maintenant, c'est les pommes de terre au printemps dans mon jardin. Début été, quoi. Quand elles commencent à prendre vraiment toute la place, comme ça. Et pour moi, la pomme de terre, c'est un vrai symbole. C'est la sécurité, c'est le symbole de l'abondance. Parce que la pomme de terre, elle est quasi dans tous mes repas. Voilà, le lundi des patates, le mardi des patates, le mercredi des patates. Et les patates à l'eau.
Tu serais pas un peu feignant sur les bords? Oh.
Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus rassurant qu'une pomme de terre. La patate, elle, c'est un symbole fort, quoi. Voilà.
Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène Hoquet, Pierrette Pastels et Corinne Ricuor.
Bah, si on me dit patate et lutte, moi, je vois des gens qui crèvent de faim et qui enfin trouvent la patate.
Ben on est à Moucron,
la jeunesse, tous les trucs,
hein. Au 58 rue Charles Quint.
Vous voulez vous inscrire, s'il vous plaît ?
Il y a la bibliothèque ici, et puis il y a la grande salle où il y a l'achat groupé de semences. Des gens appellent ça granothèque. On a fondé Fraternité Ouvrière ici en 1969. C'était destiné à faire de l'éducation permanente hors des sentiers battus. Trop battus. Et donc, cette éducation permanente, ça veut dire comme la JOC, comme les équipes populaires, comme les femmes prévoyantes socialistes. Donc, où on continue d'apprendre quand on est déjà vieux même, hein.
Je dirais que c'est inofficiel, mais c'est comme ça que c'est prévu. Oui. Ça va être un peu mouillé, je suis désolée. Cette partie de la parcelle ici était jusqu'à récemment encore cultivée par Antonio, un Espagnol qui doit avoir 80 ans et qui nous a récemment filé la clé en disant « c'est à vous ». Et petit à petit, c'est comme ça que les vieux ont donné au collectif qui maintenant essaye de pratiquer une culture de permaculture sur ces terres-là. Donc on est triste qu'il est parti, mais... On essaye de reprendre son bout de terrain. Donc ça nous fait quand même un grand espace. On est 13 jardiniers à peu près à venir plus ou moins régulièrement. Mais on est aussi beaucoup d'arbres fruitiers. Je ne sais plus combien. Plein de fruitiers. Plein d'insectes. Beaucoup d'oiseaux. Et oui, quand je dis nous, je pense aux humains, mais je pense aussi aux non-humains qui habitent beaucoup plus le lieu que nous, finalement, on vient les dimanches. On entend le train qui passe. On peut pas oublier qu'on est dans la ville, mais on peut quand même se fondre avec les plantes qui demandent beaucoup de patience. Avec le temps, je sens comment le jardin m'attend plus que je vais le chercher.
Fraternité ouvrière pour rester dans une historique qu'il y a des gens qui travaillent et qui doivent toujours se défendre contre l'agression l'agression de ceux qui veulent gagner beaucoup plus, quoi. On est très content de poursuivre ce travail à travers l'action du jardinage, parce que c'est un des besoins humains, c'est un problème humain d'aujourd'hui, que les gens puissent acquérir de la nourriture saine, quelque chose d'agréable pour eux, et qu'on puisse conserver des terrains de manière à continuer d'avoir des jardins, d'avoir des espaces verts, de protéger la terre, parce que la terre doit nourrir les humains. Votre potager, il vous pose des questions. Hein, c'est souvent comme ça, oui, c'est un acte militant. Hein. C'est évident, c'est un acte qui transforme des choses. Il fait poser des questions.
Comment je m'ai intéressé à ça? Oui, je ne sais pas, c'est vraiment des injustices aussi. Mes parents sont des artistes qui sont se retirés à la campagne. Et quand je suis grandi, j'ai vu l'énorme transformation, en fait, de l'agriculture en Flandre. Il y avait des petites paysans encore avec des chevaux, tu vois, mais qui étaient tous obligés d'investir et de changer vers l'agro-industriel. Et ça a détruit, en fait, l'agriculture autour. C'était assez violent, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis que je suis enfant à cause de cet agriculteur pesticide. Parce que ces pesticides et ces fertilisateurs, ils ont pollué le puits d'eau de mes parents. Donc voilà, j'étais sensible à ça, peut-être, à cause de ça. Donc mon nom, c'est Kobe Mantes et je suis artiste, activiste et jardinier. Je fais beaucoup de recherches sur comment les propriétés intellectuelles affectent les écologies des pratiques artistiques. J'ai beaucoup travaillé aux questions des droits d'auteur Et dans ce chemin-là aussi, j'ai travaillé pas mal sur les questions de brevets après et comment ça change les rapports pour les jardiniers, etc. Et moi, j'avais déjà fait plusieurs expos, en fait, sur ces questions des OGM, parce que c'est quand même seulement depuis les OGM qu'on puisse parler des propriétés intellectuelles au niveau des plantes. Avant, ça, c'était pas possible. Parce qu'avant, les plantes, tu ne pouvais pas les protéger. Parce que c'était des choses naturelles et pas inventées.
Un des expériences qui, pour ça je propose une balade, un des choses qui me plaît à chaque fois que je viens ici, c'est que c'est rare en ville de marcher en pente, en fait. Comme ça, non? Sans béton, entre la boue et tout ça. Donc, je propose qu'on fasse un tour par la gauche.
Nous avons été membres du mouvement Jocite étant jeunes, et c'est ça qui nous a donné le goût de faire quelque chose de militant, d'actionner une réflexion. Je trouve que c'est un respect des autres gens que d'actionner une réflexion pour que le monde aille mieux. Tout bonnement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que ça.
Je ne viendrai pas demain, je viendrai la prochaine. D'accord. Bonne continuation.
Je vais avoir 84 ans. Je suis militante depuis 50 ans. À 12 ans déjà. Je crois que je l'étais déjà du fait de ce que j'entendais. J'ai entendu des leaders d'origine ouvrière faire des discours quand j'avais 12 ans et j'étais d'accord avec ça. Je trouve que... Enfin, j'ai connu la misère. J'ai connu la misère. Alors pendant la guerre, c'était encore plus grave puisqu'on avait presque rien à manger. C'était très dur, quoi. Et donc, je trouvais que c'était pas juste.
Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Peut-être on arrive trop tard pour ça, mais il y a... On a même vu des... Toc, 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 ouais. Mais je veux pas vous parler du potager. Vous voulez parler des patates, non? C'est un légume qui pousse relativement facilement. C'est aussi un légume qui est facile à planter. C'est un légume qui prend beaucoup de place. C'est un légume qui est facile à partager, c'est un légume qu'on peut aussi utiliser comme arme. On peut la lancer, la patate, s'il faut. La patate, on l'a revue aussi dans les champs de lutte à Bure. On l'a revue à la ZAD Patate à Paris. On l'a vue aussi... à Notre-Dame-des-Landes, ils ont fait une plantation de patates. Donc la patate, elle relie beaucoup de luttes. Et à travers elle, elle fait exister, à mon avis, une agriculture populaire, une agriculture, comment on peut dire, il y a un beau mot pour ça, vernaculaire. Et voilà, c'est ça la patate que je vois.
Le pomme de terre, ça fait partie de l'histoire globale capitaliste, si tu veux. Parce que ça vient depuis Colombe, donc des Andes vers ici. Donc le pomme de terre, il est quand même aussi au milieu de cette histoire de l'agriculture industrielle, avec tous ces problèmes aussi, en termes de monoculture, mais aussi les pesticides, en fait, et les fertilisateurs. Une forte lobby aussi de l'industrie des frites surgelées. Mais le but de votre documentaire, c'est le rôle de pommes de terre dans les résistances, si j'ai bien compris.
Dit is een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat we allemaal mee verantwoordelijk zijn voor wat dat er gebeurt. Chaque personne est responsable lui-même pour ce qui se passe. Donc c'est très important de pas être violent aussi. Aan de overkant wachten zo'n 60 bange politieagenten. Il y a 60 policiers qui nous attendent. Oui. On va pas être provoqué par les polices ni par les pro-OGM. Wij zullen dit geweldloos doen. Wij zullen dit ook traag doen. On va être lentement.
Alors là, on a eu un impact, c'est formidable ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu l'action qui a été retentissante, qui a été impressionnante. Il y a un ministre d'État qui est venu se présenter sur le champ le lendemain, qui a dit qu'il y aurait des poursuites, qu'il allait se passer quelque chose et tout ça. Puis il y a Barbara Vandé qui s'est fait exclure de l'université parce que simplement elle s'était exprimée ce jour-là. Et donc, ce procès a été une chance immense. Et c'était un des objectifs de l'action. Comment ça s'est passé? C'était un champ qui était un champ de patates génétiquement modifié.
C'était pas du tout un test qu'ils faisaient à l'université, c'était vraiment de la promotion pour donner une sorte de garantie aux agriculteurs. Voilà, les OGM, tu peux compter dessus.
Et nous, en fait, on avait une patate bio qui aussi pouvait résister au mildiou. Donc on a dit, on va les échanger, quoi. On a vu au loin ce grand champ avec des grillages tout autour. On a vu tous les policiers qui entouraient ce champ. Puis tout le monde y est allé. On a commencé à se mettre autour, à élaborer des stratégies pour faire tomber cette barrière. Des types qui ont sauté par-dessus, qu'il y en a qui se sont blessés même en essayant de faire ça. Des types qui creusaient des trous par en dessous. Et puis, à un moment donné, les gars ont commencé à rentrer à gauche, à droite, et les gars et les filles. Et ont commencé à arracher joyeusement les patates et à les échanger avec d'autres patates, avec des policiers qui leur couraient derrière et qui leur donnaient des coups de matraque. Ça faisait très guignol, quoi, comme moment. Surtout que tu avais des types qui avaient des nez de clown.
C'était qui ces gens-là? C'est des artistes, mais ils jonglent avec des patates, tu vois, comme un clown qui jongle. Donc voilà, il est devenu ce terme patatiste.
On était considérés comme une association de malfaiteurs. On était 11 inculpés. Et avant de parler de la suite, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui se sont portés comparants volontaires, comme ça s'est passé en France. C'est les Français qui nous ont donné l'idée, d'ailleurs. Et donc, il y a une centaine de personnes qui ont dit « Nous aussi, on était là, on aimerait bien être jugés. » Alors, les magistrats qui étaient complètement paniqués, qui disaient « Mais on peut pas faire ça, on peut pas instruire autant de gens. » Oui, d'accord, mais c'est bien 120 ou 500 personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé, et pas 11.
On savait qu'il y a eu des possibilités et des risques, etc. Les procès sont là parce qu'ils essayent de criminaliser l'activisme, en gros. Et donc, ils ont poursuivi ces 11 personnes-là comme une bande criminelle, qui était assez absurde, parce que ces 11 personnes ne se connaissaient même pas avant. Mais c'est à cause qu'on a dû s'organiser pour protéger l'un de l'autre, qu'on a se rencontré aussi, et qu'on était obligé aussi de continuer à travailler après l'action, et qui a créé aussi beaucoup de solidarité, en fait, entre les différentes activistes qui étaient présents. Dans le recours, ils ont laissé tomber les charges de bande criminelle. À la fin, on était juste condamné pour vol sur des propriétés privées, disons, vol des pommes de terre. C'est le procès qui a nous forcé de devenir une bande, mais peut-être plutôt une bande de patatistes. Comment toi tu es arrivé là-bas?
Personnellement, si tu veux, j'y suis allé parce que j'ai vu un tract dans un magasin bio.
Juste en face du Verschuren. Et moi, j'avais déposé un paquet là-bas, mais tout le monde a posé des paquets partout. Donc c'est complètement par hasard, en fait. Mais on a bien rigolé. Et puis, alors, tu vois, on a se rencontré comme ça. On est des voisins, il habite dans le quartier.
Quand j'ai vu le trac, j'ai dit c'est hors de question. Donc en fait, j'étais pas du tout relié aux luttes. Pas du tout un activiste. Pas du tout, du tout, du tout. Et maintenant, je suis ici et je suis, tu vois, j'aurais pas été là si j'avais pas fait cette action ce jour-là. Donc ça vaut la peine. Tout ce que je peux dire, c'est que puisque je suis là, ça vaut la peine. Ouais, je m'appelle François. Et donc, j'ai participé à cette action à Wetteren d'échange de patates. Bah ici, je viens soutenir ces gens qui pensent qu'une maxi-prison, ici, c'est vraiment une erreur absolue, quoi. Et qui pensent qu'il faut réinventer plutôt le système des peines, réinventer le système judiciaire, surtout qu'il est, moribond en Belgique. Et certainement pas construire des maxi-prisons dans un endroit d'abord perdu entre le train, le tram, la route, etc. Très loin de la ville, donc avec des gens qui vont avoir du mal à visiter les personnes incarcérées. Et puis en plus avec des terrains qui sont utilisables pour y faire pousser des choses. Donc c'est important d'avoir des terrains où on peut faire pousser des choses. Je trouve ça plus beau que d'y emprisonner des hommes.
Gagner ma confiance en fait. On est ici au Kelbeek, à Arn. C'est un petit village au nord-est de Bruxelles. C'est un peu entre le centre-ville et Zaventem en fait.
Ici c'est grand un terrain, c'est 18 hectares.
C'est la fameuse terre des chicons, elle est bien noire, elle est bien fertile.
Il a fait une grande prison ici.
La plus grande prison de Belgique. C'est beaucoup trop grand pour être bien géré et beaucoup trop cher.
Et nous, qui fait les habitants d'ici, qui nous, moi, je ne veux pas qu'il fait la prison. Je veux qu'il reste comme ça vivre.
Je m'appelle Camille et j'ai occupé le terrain pendant la première occupation pendant 9 mois. Et maintenant, c'est en fait la troisième occupation. Et donc, je me relance sur le terrain. Je ne suis pas le seul, j'y crois toujours. En fait, on a réussi à retarder les travaux pendant 4 ans, donc pourquoi pas pouvoir les retarder encore 4 ans. On n'a pas encore épuisé tous les aspects juridiques, les possibilités juridiques. Il y a toujours, par exemple, un espoir de faire un recours à l'Europe, et ça pourrait vachement retarder toute la chose. Et on observe très bien ce qui se passe sur le terrain, et dès qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les permis, on accuse et on fait arrêter les travaux. Donc il reste de l'espoir, certainement.
Ça va.
Hello, you.
Bonjour.
Welcome.
Thank you.
À côté de la lutte écologique et de la lutte pour les terres arables, il y a un aspect hyper important sur toutes les ZAD, c'est apprendre à vivre ensemble. Et donc apprendre à vivre pas seulement avec d'autres ethnies, j'aime pas le mot race parce que c'est un faux terme, mais donc différentes ethnies. Il y a toujours aussi quelques sans-papes qui s'installent. Et à côté de ça, il y a toutes les autres luttes sociales comme le féminisme, les queers, mais aussi les vegans qui disent « Ah non, on mange plus de viande et puis non, on porte plus de cuir et des trucs comme ça. » C'est parfois, dans une petite ZAD comme au Kelbeek, c'est très difficile de gérer aussi toutes ces tensions-là. mais dans des plus grandes aides comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, en fait, il y a de la place pour ça, parce qu'il y a, quand on est à 150 personnes, il y a moyen de se retrouver, de faire des petits groupes de travaux et de gérer ces choses-là. Et en fait, même si on perd un terrain de façon écologique, on a toujours gagné en social et apprendre à vivre ensemble vraiment et l'intelligence collective. On apprend des outils en fait pour mieux communiquer entre tous ces petits groupes. Et ça, c'est une richesse qu'on perd pas finalement, même si on perd un terrain.
Ça va aller, ça ?
On vient voir si les patates sont fermes.
Les patates vous attendent.
Oui, mais je viens voir Isabelle.
Oh zut, j'ai oublié ma bêche.
Isabelle, patates. Merde.
Chers patatistes, je suis honorée de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que dans le monde, les choses ne vont pas bien. Je ne sais faire grand-chose, mais planter 2 ou 3 patates, par exemple. C'est un début.
Et là, on fait comme ça.
Je vais faire une petite explication.
Juste de prendre un petit peu attention pendant 30 secondes. Donc, je voulais juste vous faire un petit briefing. Il y a à peu près 3-4 points. Dans un premier temps, ici, on est sur le terrain du Kelbeek. Cette partie ici, c'est à la régie des bâtiments. Du coup, c'est une propriété privée. Et du coup, là, on est tous à peu près en inégalité. Donc, il faut savoir que le côté public, c'est sur le chemin et de l'autre côté du pont. Juste pour que tout le monde le sache, que même si c'est illégal, ça peut être tout à fait légitime, et c'est ce que nous pensons tous. Donc voilà.
Ça ne fait pas marcher aussi.
Là, c'est les endroits où ça a été...
Ça, c'est les endroits, ça, c'est que des chemins qui ne peuvent pas passer.
Là, il y a déjà des patates en dessous, c'est ça?
Oui,
voilà.
Oui,
il
y a des patates.
Ok, mais tu vois, donc ça...
Ça fait marcher le parquet ici, comme ça. Ça fait marcher par là-bas aussi.
Je veux dire, à un moment donné, ils vont sans doute vouloir débarquer avec des pelleteuses et... Donc on pourra faire autant de communiqués de presse qu'on veut, ça ne marchera pas si on n'occupe pas le terrain. Quoi. Et donc les patates, c'est le prémisse à l'occupation, je dirais. L'occupation multiple, quoi, politique, culturelle, imaginaire aussi. Donc il faut recréer des imaginaires possibles. Il faut combattre le... Ben, en fait, c'est déjà fait, c'est déjà plié. Quoi. Et le fait d'occuper le terrain, ça permet de recréer une possibilité de dire ben, « en fait, non, non, c'est pas fait du tout, regardez la preuve ». Il y a des choses qui poussent, il y a des potagers, il y a des gens qui occupent, qui s'engueulent, machin, enfin voilà.
Début 2014, dans le comité, il y avait une personne en contact notamment avec le RESAP, le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, qui disait, la journée de soutien aux agricultures, à l'agriculture paysanne, le 17 avril, va peut-être se faire à Arnes. Il y a plus de 400 personnes, de 400 à 500 personnes qui sont venues, enfin une partie d'Arenois, mais surtout d'ailleurs, qui ont débarqué dans le village. Et puis après, on est parti avec des fourches et des bêches vers la friche du Kelbeek pour planter des patates, donc sur le terrain de la prison, avec le message premier de préserver les terres arables et de ne pas les bétonner. Et donc pour la plupart des Arenois, les patatistes, c'était ceux qui occupaient la zone. Parce qu'après, on a fait une ZAD, on a nommé ça ZAD, et donc il y avait ZADIS, patatistes, etc. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est là pour préserver l'espace vert ? Est-ce qu'on est là pour lutter contre les prisons ? Est-ce qu'on est là pour lutter contre notre société capitaliste ? Est-ce qu'on est là pour l'aspect social ? Comment on se nourrit ? C'est aussi quelque chose qui est plus fédérateur finalement que lutter contre les prisons ou la protection des lapins.
Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ici à Arnes, ça a enraciné la lutte, puisque ça lui a donné un tournant. Ça a donné la suite, l'occupation, une cabane, 2 cabanes, 3 cabanes, des liens avec d'autres luttes similaires, d'autres luttes de territoire, Notre-Dame-des-Landes, voilà. on a eu un document mais formidable de la régie des bâtiments avant la plantation de 2014 qui montrait qu'en fait, planter des patates allait, elle est énorme, la formule, allait amener à une déstabilisation du sol destiné à accueillir la maxi-prison et donc allait empêcher les travaux, voilà, une formule du style.
Lance de patates, mon amour. Lance de patates, mon amour. C'est bon pour la volaille, ça leur donne bonne mine. Lance de patates, mon amour. Lance de patates, mon amour. C'est bon pour la volaille, ça leur donne bonne mine.
Ici, le fait de planter de la patate, c'est quelque chose de très intéressant pour s'y symboliser, pourquoi pas une forme de résilience alimentaire en cas de siège sur la ZAD, ce genre de choses. Donc les patates, c'est ce qui se fait en maraîchage. Je pense que le rapport investissement et retour calorifique, ça doit être le plus élevé. Ça fonctionne très facilement, la patate, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et voilà, en plus, c'est drôle, le mouvement patatiste, en clin d'œil aux apatistes. Moi, ça m'a fait rire, en tout cas, c'est un des trucs qui m'a donné envie de m'investir ici aussi. Donc ouais.
C'est que patate, c'est pour tout le monde. Et que moi, c'est pas long. Voir, et que quand il est jour de. Sont les journées de patate, et tout le monde il peut. Et qu'il partage avec tout le monde. Hein. C'est comme ça.
Sébastien Kenes, activiste au réseau de soutien à la culture paysanne, et je travaille pour Rencontre des Continents. Moi, historiquement, en fait, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans les mouvements sociaux dits altermondialistes. Et en fait, la lutte qui m'a le plus parlé aux tripes et au cœur, c'est la lutte agricole, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité et une prise sur l'objet, c'est-à-dire sur l'alimentation, sur les nourritures, sur les sols, sur la terre, sur le paysage, qu'on n'a pas dans d'autres luttes et donc qui favorise la convergence. À Guilanguin, les gens sont en lutte contre des projets de contournement routier pour le parc de Péridaïsa.
Donc ici, on est sur un terrain qui ne nous appartient plus, mais qui était occupé par les agriculteurs avant la transformation en terre, ici pour zoning.
Alors je crois que c'est important que nous manifestions notre soutien à ces agriculteurs qui sont ici avec le tracteur ou d'autres qui sont ici. C'est important qu'ils sachent qu'on les soutient. Merci.
Merci pour eux. Est-ce que vous êtes chaud pour planter des patates ? Donc Laurence va nous expliquer quand même pour les quelques urbains que nous sommes à ne pas avoir mis nos mains dans un champ comment planter des patates. Non mais je rigole, mais je suis l'archétype de ça.
On va mettre une patate tous les 40 cm. Alors votre père, ça va être le tronc de votre corps. Alors je fais une petite démonstration, ce sera le plus parlant. Tous en ligne. On va d'abord agrandir le sillon. En général, on plante des petites comme ça. Ça va ? Et donc, on en met une. Et puis, 40 cm plus loin, on en met une autre. Et ainsi de suite. Après, on reprend notre outil. Et on va ramener la terre qu'on a préparée là. Il faut que ça fasse une belle petite butte. D'accord ? Voilà. Et puis j'en ai déjà préparé une autre derrière moi. Ou là aussi. On va remettre les patates et puis ramener la terre. Ça va ? Voilà.
Ouais. Et on va le faire en faisant des slogans. Alors on y va ? Les patates, pas du béton ! Les patates, pas du béton ! Les patates, pas du béton ! Des légumes, pas du bitume ! Des légumes, pas du bitume ! Des légumes, pas du bitume !
Donc il ne faut pas oublier que le 17 avril, ça commémore la tuerie qui a eu lieu au Brésil avec des paysans sans terre qui manifestaient pacifiquement dans les rues et qui ont été tués par la milice. Ils voulaient simplement récupérer des terres desquelles ils avaient été expropriés pour pouvoir cultiver, se nourrir et nourrir les populations autour, donc créer des marchés vraiment circuit court. Cette lutte-là, elle est présente encore aujourd'hui, que ce soit au Brésil, en Asie, en Afrique, moins présente chez nous, de manière moins violente, mais ces combats-là, ils sont par rapport à l'agro-industrie qui empêche les paysans de vivre correctement.
Je suis ici pour annoncer une affaire qui se passe partout en Belgique, notamment la vente du patrimoine de nos communes et de ces PAS. Et ça, c'est nos communs qu'on perd. Ça, c'est notre patrimoine, ça, c'est notre capital. Et nos villes et nos autorités publiques sont en train de vendre notre capital. Et donc, ça se passe. Et ça, c'est aussi au détriment de l'agriculture paysanne qu'on veut.
C'est dommage, quand tu vois toutes ces terres-ci qui sont laissées. Chez moi, c'est pareil. Ils ont exproprié 10 hectares là, pour le zoning et il n'y a toujours rien.
Allez, tentez l'expérience de planter des patates. C'est peut-être la seule fois de votre vie que vous pourrez le faire. On sait quand ça commence, on sait jamais quand on arrête quand on plante des patates.
Et avec cette plantation approximative, on espère que les patates vont s'en sortir. C'est tout. Qu'elles vont germer. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Voilà, mais c'est bien de faire des trucs comme ça et des trucs safe, quoi. Voilà, c'est bien. Moi, je suis tombé dans le petit ravin pour faire une photo, mais c'est tout ce qui pouvait m'arriver. Et il y avait des orties, putain. Non, je te jure. Mais quand j'étais petit, je m'asseyais toujours sur le nid de fourmis. C'était une spécialité. Puis j'allais pleurer chez ma mère et tout ça. Bon, voilà, mais... voilà, donc il y avait probablement un plant d'ortie, je l'ai eu. Bon, je voulais juste parler que des patates et voilà, vous m'avez emmené ailleurs.
On va filer les masques aux gens et tout là-bas, les gens viendront de ce côté-là. C'est mieux, c'est mieux.
Merci Maya, ouais.
Salut, c'est à toi qu'on doit parler. Tu vas t'exprimer pour Marie-Thérèse.
Ouais.
Tu t'appelles comment ?
François. Je vais parler à la fois pour le FLM et pour Marie-Thérèse.
Ok, donc on t'introduit juste comme ça et puis on
fait super. Et donc c'est à 15, hein, normalement.
Ouais, ouais. François.
Et toi ?
Anne-Sophie. Moi, Romane.
Romane.
Ah. Est-ce qu'elle a pas de couleur tout seul ? Wouhou !
Ils sont biolo, ils ne font pas d'ordi. Parce que c'est piqué le d'ordi.
C'est mieux, ouais.
Un peu plus sec.
mais comme ils sont dans les sacs, ils ne vont pas prendre la lumière.
Ah oui, très bien, merci.
S'il vous plaît. Merci à vous.
Ça va aider à payer les frais d'avocat ?
Comment ?
Ça va aider à payer les frais d'avocat ?
Oui, okay. C'est en fait 3 euros pour la ferme et 3 euros pour les ételés.
Ok, ouais. Ça va. Mais moi, je veux bien un paquet.
Un paquet ?
Pour moi, c'était logique de dire, voilà, j'ai beaucoup de pommes de terre cette année-ci parce que c'était une merveilleuse année de pommes de terre. Pourquoi pas faire une liaison entre ville et campagne, entre activistes et paysans, et nous vendre des pommes de terre en soutien avec votre procès. Et eux, ils répondaient, oui, c'est bien, mais on veut acheter des pommes de terre à un prix juste aussi. Mais dans une année d'abondance, les prix justes, ils tombent, quoi. Et c'est bien d'avoir un groupe d'activistes qui est très soigneuse pour les paysans et qui disent, voilà, non, on va quand même payer le prix juste. Fais ton calcul. Nous, on fait, on vendra ensemble avec toi. Yeah.
Yes. And even alligators are, I mean, in danger by this, by this Monsanto company.
Every animal needs other animals. So if one is missing, the other are in danger.
Je suis venue de mon village du Brabant Wallon pour être là au moins pendant le temps de midi parce que je trouve ça extrêmement important de soutenir les activistes et je ne comprends pas qu'on leur fasse un procès.
Oui, oui, moi je viens de Liège pour les soutenir.
Je trouve ça courageux et il n'était pas question que je ne sois pas là.
Je suis Geoffrey Players, je suis professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain. Je suis présent en tant que citoyen d'abord, hein. Je pense que c'est important de défendre notre démocratie aujourd'hui. Je suis scandalisé aussi de voir qu'une action pacifique, symbolique peut mener en justice. C'est incroyable quand même, hein. Mais on voit que ça se multiplie malheureusement. Et puis je dirais que je suis aussi là comme sociologue parce qu'on voit que ce genre de luttes sont non seulement les plus amusantes mais aussi les plus efficaces pour dénoncer un problème qui est très invisibilisé, qui est caché. Les lobbies sont par définition discrets. Et donc c'est un problème majeur pour la démocratie aujourd'hui, une menace majeure. Et malgré tout, on en parle très peu. On est à Bruxelles, devant le palais de justice, dans une action de soutien à l'ensemble zoologique pour la libération de la nature.
Alors aux ételettes, nous ce qu'on fait en général, c'est qu'on envahit des lieux, que ce soit des lobbies, que ce soit des lieux de décision politique, pour mettre en lumière les crimes environnementaux commis par les multinationales, l'impunité dont ces multinationales jouissent et l'influence qu'elles exercent sur les politiques publiques. Alors moi, je suis la sous-commandante Lapin. À chaque fois, chacun vient déguisé. Il y en a qui passent des heures à faire le déguisement, comme cette magnifique tête d'écureuil qu'on vient de me mettre en main, qui est vraiment très très belle, très mignonne. Alors pas très visible, ce qui n'est pas très pratique en action, parce que l'espace pour les yeux est tout tout petit. Donc il y a vraiment de tout. Il y a des mammifères, des animaux marins, il y a un crocodile juste devant moi. Il y a beaucoup de mammifères, hein. C'est vrai que ce n'est pas très inclusif ça, mais il y a aussi des oiseaux, il y a parfois des lombrics, pas beaucoup, mais quelquefois on a des chenilles et des trucs de genre. Et puis aussi, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des fleurs. Il y a un peu de tout ça.
Miaou. Miaou. Oh non, 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 non. Non, non.
Voilà, pourquoi le chat ?
Oh non.
Allez, Martin.
Non, non, j'ai vraiment pas chaud.
En plus, j'ai dit à mon collègue, en venant là, que je détestais qu'on m'interrogeait comme ça. Enfin, que je me sentais pas du tout à l'aise. Je suis désolé.
Sont venus déguisés en animaux pour soutenir le procès. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait. C'était magnifique. Parce que ce palais de justice, avec tous ces animaux hauts en couleur, rien que l'image en soi posait pas mal de questions, quoi. Simplement de voir ça, un palais de justice croulant sous les échafaudages, le bâtiment le plus lourd d'Europe, commandé par Léopold II, parce qu'il voulait que les gens sentent le poids de la justice. qui est supposé être effondré depuis longtemps d'ailleurs. Et tous ces animaux qui sont devant, c'est magnifique. Oui, en même temps, c'est gay. Enfin, c'est gay. C'est chouette de se battre pour ou de faire quelque chose pour quelque chose auquel on croit. Parce que c'est juste de faire ça, c'est tout. Mais c'est le monde à l'envers. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui devrais être sur le banc des accusés. Pour moi, on parle de gens qui participent et qui sont, enfin, qui sont clairement complices de génocide et d'écocide. Mais peut-être que j'agis aussi pour sortir de cette colère, enfin que j'agis. C'est pas faire grand-chose que de faire des petites actions de dénonciation. C'est un bon moyen de sublimer sa colère. Donc quelque part, il y a cette nécessité de la désobéissance. C'est nécessaire de pouvoir dire non au système. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais j'avais 5 minutes pour faire un déguisement, donc j'ai pris un essuie. Bah, un essuie sur la tête et une cage par-dessus. Un essuie jaune, sinon ça fait pas très canari. Bah, le canari en cage, c'est ce qu'on amenait dans les mines pour savoir s'il y avait du grisou. Et quand le canari était mort, il vidait la mine. Donc le canari était un espèce de lanceur d'alerte.
J'aimerais appeler Thace sur la scène. Thace est en train de vendre ces fabuleuses patates que vous avez vues un peu partout à Bruxelles. Superbes patates qui sortent de son champ, qui ont été vendues en soutien aux activistes qui sont en Bruxelles aujourd'hui. Donc ces fabuleuses patates sont en vente par là-bas.
Bonjour tout le monde. J'étais super heureux d'avoir la possibilité d'avoir une ferme qui pourrait vraiment soutenir leurs actions, parce que nous, on est fort chargés sur le champ. On n'a pas toujours le temps de montrer à tous ces grands lobbyistes, à tous ces grands ministres, à tous ces grands gens sérieux qu'on est enragés et qu'on est en danger en plus et qu'on est en difficulté et qu'on vit. Chaque jour, on a fait un jour de lutte. Et pour moi, c'était aussi super ravissant de voir que les activistes, ils sont venus nous aider et qu'ils ont vécu cette stress de la vente, de trouver des lieux de vendre le produit, de savoir combien de paquets qu'il fallait faire. Et un jour, ils me disaient, mais Thèse, les pommes de terre, ils sont jusqu'ici et on sait quoi pas faire. Je disais, ouais, mais c'est ça la vie de paysan, quoi. Parfois, on ne sait plus quoi faire, mais on avance. Et quand moi, j'ai appris cette attitude, c'est grâce à la fête que j'ai aussi eu passé comme activiste. Et moi, j'ai vraiment vécu tous ces moments que t'es en stress, que t'es avec un procès, que tu dois passer par voir un juge, que t'es arrêté pour la 10e fois. Et en fait, tout ce stress dans ma vie d'activiste m'aide maintenant à comprendre quand moi, je suis paysan et que quand j'ai des journées difficiles, qu'il y aura la possibilité de s'en sortir. Et alors, ce que je dirais avec plaisir à tout le monde qui est ici, c'est de ne pas avoir peur de votre rêve. Et si un jour tu as un rêve de devenir un paysan, vas-y quoi.
Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène Hockey, Pierrette Pastels, Corinne Ricuor. Montage, mixage et création sonore. Flavien Gillier.
Avec Josine, Livia, Cob, François, Camille, Laurent,
Turan, Serge, Lily, Florian, Seb, Laurence, Jean, Catherine, Thaïs, Geoffrey, la sous-commandante Lapin, Barbara, Eric, Caroline, Géraldine, Paul et Patrick.
Un projet initié lors d'un atelier du XARA animé par Guillaume Abgral. Une production Alternative Culture accompagnée par Bastien, Camille et Carmelo de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Radio Panique et Bruxelles Laïque. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Même des fois faire un gros pétard et être sifflé que...
Récréation sonore.
Le silence, c'est silence. C'est...
Oui, bonjour, je m'appelle Corinne Récuor et je réalise des montages radiophoniques et des podcasts depuis l'année 2017.
Alors moi, je m'appelle Hélène Hoquet. Je suis en fait de mon métier, c'est plutôt d'être coordinatrice de projets artistiques. Je travaille dans un théâtre et la radio. J'ai commencé ça fin 2016.
Bonjour, donc je m'appelle Pierrette Pastels et je réalise des documentaires radio depuis celui que vous allez écouter ou que vous avez écouté, donc des patates et des luttes, qui en fait est le produit d'un atelier radio qu'on a suivi toutes les trois à partir de 2017 avec Guillaume Agbral.
Et donc Guillaume, à l'époque, travaillait au XARA. Et c'est comme ça, d'ailleurs, toutes les trois qu'on a commencé la création radiophonique.
Alors, c'est assez amusant comme expérience parce qu'on ne se connaissait pas avant de réaliser ce documentaire. Donc, on a fait connaissance au moment de l'atelier, au moment de l'exercice.
Et voilà, et toutes les trois, on était à la fois débutantes et à la fois formées à tout, à la prise de son, à écrire ce documentaire, à le monter, etc. Et donc, on a un petit peu, toutes les trois, fait de tout.
Alors, moi, j'aime assez bien travailler. Enfin, j'aime pas travailler toute seule. Je trouve qu'il y a plus de choses dans la tête de plusieurs personnes que dans une seule. On a chacune apporté quelque chose au documentaire. On est venu avec nos idées, on les a partagées. Il y a des choses qu'on a retenues, d'autres pas. Et il y a des moments où on a dû peut-être même voter pour trancher.
Même si des fois c'est compliqué d'être à trois et de se mettre d'accord, ce qui est une grande force, en tout cas quand on est débutante comme ça, c'est qu'en fait d'être plusieurs, ça donne du courage et ça motive. Parce qu'en fait, voilà, on a commencé ce projet de rien du tout, là, d'une simple idée. Et que pour aller sur le terrain, pour se déplacer, faire ça le week-end, s'organiser avec le travail, pour aller faire ça, par exemple, devant le palais de justice à Bruxelles, là, c'était pendant les heures de travail, donc il faut s'organiser pour être sur place et tout, être disponible. Du coup, être à trois, c'est pas mal.
Alors évidemment, on doit chacune faire le deuil de moments, de passages qu'on aimait bien, de personnages qu'on aurait souhaité garder, mais c'est aussi ça l'exercice que de réduire à 50 minutes des semaines et des semaines de prise de son et des avis divergents sur certaines parties du montage, mais ça a été passionnant.
Bien, au départ, il fallait qu'on trouve un sujet pour l'atelier, pour faire un exercice. Il y avait l'envie de parler un peu de belgitude, peut-être, de patate.
La patate, ici, en Belgique, c'est quand même un immense symbole. Enfin, c'est aussi un symbole, justement, du capitalisme. La Belgique produit énormément, énormément de pommes de terre.
C'est une monoculture intensive qui finit par épuiser les sols. Qui dit monoculture intensive dit spéculation, transformation de la pomme de terre. Des produits qui génèrent des marges conséquentes, et tout ça au détriment de la santé publique.
Et en même temps, c'est aussi le pays du surréalisme. Et donc, moi, je connaissais des personnes qui étaient patatistes, donc activistes, et qui utilisaient les pommes de terre comme moyen de lutter.
On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de luttes qui utilisaient la patate que ce soit pour la lancer, pour la vendre, pour la planter, pour occuper le terrain, la vendre pour récolter des fonds pour les frais de procès de certaines luttes.
C'est le début de quelque chose dans les luttes paysannes que de planter des pommes de terre comme symbole de lutte.
Comme on a eu plusieurs lieux de tournage, plusieurs ambiances, à chaque endroit il s'est passé quelque chose. Devant le palais de justice à Bruxelles, c'était juste incroyable de rencontrer ce sociologue-là qui est venu nous parler, de rencontrer des personnes qui étaient déjà là à Wetteren, à Aaron. Donc on a eu François comme ça qui est apparu aussi avec les personnes à Saint-Guilain. C'était hyper, hyper joyeux cette journée de lutte paysanne où on a planté des patates, où on a appris à comment planter des patates. Ça, c'est l'octobre. Le documentaire.
Mais ce qui nous a permis aussi de recueillir toutes ces paroles de militants. On a mis à peu près 2 ans de récolte de sons et puis encore une année pour finaliser le travail. Donc, certains militants étaient présents à toutes ces luttes qui se sont déroulées au fil de ces années. Et on finit par nous reconnaître, donc on s'est un petit peu apprivoisé et ils ont fini par se livrer. Donc c'est pas comme le travail d'un journaliste qui va aller faire un sujet, il va se pointer, il va prendre du son et puis rentrer, monter.
Le moment que j'ai envie de partager, c'est une prise de son dans le potager de Livia. Je me rappelle très bien, c'était en hiver, il faisait très froid. Et nous étions emmitouflés vraiment de la tête aux pieds, comme si on partait au pôle Nord. Et je ne sais pas, c'était un moment très drôle de se retrouver là avec notre équipement, le casque. C'était nos premières prises de son, donc forcément un peu maladroite.
Tout ça était vraiment d'une très grande richesse, comme Kobe Mathijs, qui lui était à Wetteren, donc dans les tout premiers patatistes, et qui nous explique est-ce que c'est des clowns, est-ce que c'est des artistes, est-ce que c'est des activistes. Kobe, l'enregistrement dans sa cuisine, là, la petite interview dans sa cuisine, c'était aussi un très très beau moment où il nous a délivré plein de choses personnelles, comme le fait qu'il soit malade à cause du puits d'eau de ses parents qui était pollué.
J'ai un très bon souvenir de la visite de l'ASAT avec les sans-papiers, une journée d'été comme ça. C'était assez tranquille, donc c'était pas un jour de lutte, c'était juste nous, une découverte de l'ASAT. Et puis alors, j'ai beaucoup aimé aussi les plantations de patates, que ça soit justement à Aaron, dans la ZAD, ou à Guilanguien, donc où il y avait justement les tracteurs, les tambours, etc. Je trouve que ça donne aussi un côté très... Enfin, ça montre un côté très festif des luttes. C'est ce qui donne ce ton festif aussi à tout le documentaire, je trouve.
Tout ce qu'on a vécu de joyeux, de sensible, d'un peu fou. Voilà, c'était quand même une très très grande aventure, ce tournage et ce documentaire, une belle aventure humaine, une belle aventure de surprise, quoi, vraiment, parce qu'on a eu la chance d'avoir plein de surprises. Ouais, voilà, puis après c'est des images qui sont dans la tête, comme ça, là.
C'est déjà la fin de cette émission, on espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Récréation Sonore. C'était Béatrice Grandet au micro.
Quoi ne sont-ce que...